Il y a une question qui est venue
Ouais.
pendant la pause et qui concerne la partie précédente, donc je la lis
Oui.
maintenant. Comment concrètement avoir le mal en horreur? Parfois, nous pouvons nous habituer au mal et ne plus même désirer le bien. Que faire?
Ouais, je dirais que là, c'est une excellente question. Je pense que il s'agit en particulier d'une culture du bien. Et malheureusement, on peut être tenté de baisser la garde en tant que chrétien et de se laisser influencer par le monde, hein, et par une culture du monde en disant, voilà, on veut pas toujours être en porte-à-faux avec le monde. Et je pense que c'est légitime de pas vouloir toujours être en porte-à-faux avec le monde quand on est en relation avec le monde, mais pour nous-mêmes. Je crois qu'on doit vraiment vivre une culture du bien. Ça veut dire qu'on doit voilà, cultiver le bien dans notre propre vie. On doit être intransigeant avec le mal sous toutes ses formes. Et je crois que en faisant cela, petit à petit, voilà, le Saint-Esprit éduque notre conscience pour qu'on devienne de plus en plus sensible au mal. Et je pense que si vous êtes chrétien depuis quelques années ou quelques décennies, en regardant en arrière, vous faites peut-être ce constat de dire, mais moi, il y avait des choses mal que je faisais il y a 10 ans ou il y a 20 ans qui me gênaient pas. Mais aujourd'hui, elle me dérange. Moi, en tout cas, je pourrais donner quelques exemples par rapport à ça, de choses, et je ne veux pas les citer ici parce qu'il ne s'agit pas de faire des comparaisons ou de dire il faut faire ceci ou cela. Mais il y a des choses avec lesquelles j'étais moins sensible il y a plusieurs années en arrière, et je pense que le Seigneur nous fait aussi grandir dans cette culture du bien où on apprend à être toujours plus, toujours plus intransigeant par rapport au mal et de plus en plus avoir vraiment ce mal en horreur. On doit comprendre le regard que Dieu porte sur le péché, parce que Dieu porte un regard terrible sur le péché. Le péché, c'est une déclaration de guerre à son encontre. Et du coup, ce mal, on doit apprendre à l'avoir en horreur.
Merci. Alors on peut continuer pour la suite. Je te laisse repartager ton écran.
Donc on revient dans, on était dans cette troisième là. Soyez plein d'affection les uns pour les autres et on arrive dans la deuxième du triptyque quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Et vous avez entendu hein, que dans la version Second 21, c'est un tout petit peu différent. Hein. Rivaliser d'estime réciproque. Je crois que les deux traductions, elles se complètent et elles nous aident un petit peu à comprendre l'idée qui est là derrière. Et je trouve ça intéressant, cette exhortation. C'est un petit peu inhabituel parce qu'on a des fois un peu l'impression qu'on doit honorer Dieu seul. Mais ici, il est question d'honorer les autres en étant les premiers à le rendre aux autres. C'est pas un péché en fait d'honorer des personnes quand c'est valable et en particulier d'honorer des frères et sœurs quand ils font des choses qui sont remarquables, des choses qui sont pas nécessairement héroïques, hein, mais quand voilà par voilà leur action ou leur obéissance, ils font quelque chose qui est remarquable, on a le droit en fait de les honorer. Et c'est aussi ça. Des belles relations qu'on va pouvoir vivre entre frères et sœurs. Donc, il faut toujours veiller à l'orgueil, parce que c'est vrai que l'orgueil, c'est un piège dans lequel on peut tomber facilement, et on va en parler tout à l'heure de l'orgueil. Mais on ne doit pas non plus voir l'orgueil en permanence chez l'autre, parce que voilà, parfois on est tenté, par exemple, de ne jamais encourager un prédicateur parce qu'on a peur qu'il tombe dans l'orgueil. Au contraire, je crois que l'encouragement et même l'honneur, c'est quelque chose qui est possible et qu'on doit vivre d'après Paul ici. On continue, on arrive à la cinquième exhortation quant à l'activité. On ne doit pas être paresseux, on doit être fervent en esprit et on doit servir le Seigneur. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, on parlait de la, voilà, du laxisme ou de l'oisiveté ou du fait de voilà, compter sur le salut de telle sorte qu'en fait, on n'aurait plus aucun effort à fournir. Ici, bah, clairement, Paul, il va à l'encontre de cette idée-là. Au contraire, quant à l'activité, on ne doit pas être paresseux, on doit être fervent en esprit. Ça signifie que voilà, dans nos pensées, on doit être toujours aiguisé. Pourquoi? Pour servir le Seigneur. Donc, notre activité, elle a une orientation. Elle n'est pas juste comme ça, on ne doit pas juste faire un petit peu ce qu'on veut, ce qui nous passe sous la main. Non, toute notre activité, elle doit être orientée à servir le Seigneur. Alors, il faut pas mal me comprendre ici, parce que des fois, on a un peu tendance, nous les chrétiens, à faire une espèce de scission, une différenciation entre des personnes qui seraient dans le ministère, comme on dit, et des personnes qui seraient pas dans le ministère. Et je crois que ici, c'est pas, enfin voilà, c'est une fausse division qu'on peut être tenté de faire. Au contraire, je crois qu'on est tous en fait au service du Seigneur. Moi, j'avais bien aimé une fois un prédicateur qui avait dit si vous êtes électricien, en fait, vous êtes un missionnaire déguisé en électricien. Et je crois qu'on est tous en fait à plein temps pour le Seigneur et on est tous appelés à faire sa gloire, à édifier les frères et sœurs et à témoigner de lui auprès de ceux qui ne le connaissent pas à plein temps. C'est 24 heures par jour, que ce soit avec nos enfants le matin quand on lit la Bible avec eux, ou bien avec notre épouse quand le soir on discute avant d'aller se coucher, ou que ce soit sur notre lieu de travail, ou que ce soit à la pause ou dans le bus. En fait, de manière permanente, on doit être toujours dans cette logique-là. Quant à l'activité, pas paresseux, fervent d'esprit, servant le Seigneur, c'est vraiment toute une orientation de vie dans laquelle on doit vivre. Alors, c'est vrai pour les pasteurs, c'est vrai pour ceux qui sont dans un ministère, entre guillemets, à plein temps, mais c'est vrai pour nous tous, en fait. On est des disciples de Christ à plein temps et on doit vivre de manière complète cette identité de disciple de Christ. On passe à la sixième. Quelque chose d'intéressant parce que ici, on aborde les difficultés. Après le triptyque hein, de l'amour fraternel, de l'honneur, de l'activité, ici on passe au temps plus difficile. Réjouissez-vous dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. La version seconde 21, elle dit réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patient dans la détresse, persévérez dans la prière. Voilà comment on doit vivre l'épreuve. Premièrement, réjouissez-vous dans l'espérance. Je crois que là aussi, des fois, en tant que chrétien, on est très orienté, en tout cas, les chrétiens occidentaux du XXIe siècle, on est très orienté vers le passé et vers notre salut acquis à la croix en Jésus-Christ. Ce salut acquis à la croix en Jésus-Christ, il est vrai, il est réel. Et ces éléments qui sont passés, ils sont vrais. Mais parfois, on oublie un peu que notre salut, en fait, l'aboutissement de notre salut, c'est futur. On a une espérance qui est devant nous, une espérance qui est glorieuse. Et quand on passe par des mauvais moments, on peut vraiment objectivement se réjouir parce qu'on a devant nous l'espérance. J'ai eu l'occasion une fois de visiter un homme peu de temps avant son décès et j'étais marqué par... Il se réjouissait. Il se réjouissait. C'est un homme qui pouvait plus se lever. Il était malade. Il était, bon, voilà, il savait que c'était la fin pour lui, mais c'est un homme qui a vécu des décennies dans la présence de Dieu en Jésus-Christ. Et il était heureux. Il était rayonnant. En fait, il se réjouissait simplement de retrouver son maître. Il se réjouissait de retrouver son père. Et il était heureux de cela. Et je crois que moi, j'en ai tiré une belle leçon, hein, que c'est pour nous aussi. On ne doit pas juste se souvenir de la croix. Mais le souvenir de la croix qui aboutira à entrer dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est quelque chose qui nous réjouit. Patient dans la tribulation. Donc, c'est. Voilà. La Bible est claire. On est, enfin, c'est pas l'évangile de la prospérité. C'est pas parce qu'on est chrétien que tout va être rose et ça va être super cool et enfin, tout, on n'aura plus de problèmes de santé ou de problèmes d'argent. Non, au contraire, les tribulations seront là. Si Paul nous dit patient dans la tribulation, c'est parce que les pré-tribulations, elles viennent. En fait, en tant que chrétien, on doit s'attendre à vivre exactement les mêmes souffrances, les mêmes douleurs que les autres, voire plus, parce qu'il y a certaines tribulations qui sont spécifiquement vécues dans le cas de la, à cause de notre foi chrétienne. Donc, on doit être patient dans la tribulation, sachant qu'on peut se réjouir dans l'espérance. Et puis finalement, quand on passe par ces moments de difficulté, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être persévérant dans la prière. Mes amis, je le dis à ma honte, je ne suis pas assez persévérant dans la prière. On doit apprendre à prier sans cesse. Ça, c'est la parole qui nous le dit. Et je pense que là, une clé que je veux vous partager, moi, je pense qu'une la meilleure manière que moi j'ai trouvée de persévérer dans la prière, c'est de prier avec des frères et sœurs. On a une réunion de prière dans notre église régulièrement. Et je trouve que de venir à la réunion de prière et de prendre le temps de prier avec d'autres, c'est quelque chose qui nous aide à persévérer dans la prière. Ensuite, deux exhortations, de nouveau, un peu qui vont ensemble en quelque sorte, et qui s'adressent spécifiquement aux saints. Ici, on a donc les saints, ce n'est pas les saints dans le sens de super chrétiens, c'est simplement les chrétiens, ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont été pardonnés, rachetés par Jésus-Christ. On doit subvenir aux nécessités des saints et on doit s'appliquer à l'hospitalité. Voilà deux commandements très pratiques et qui sont pas évidents à vivre aujourd'hui. Les deux sont difficiles à vivre. Comment on doit subvenir aux besoins, aux nécessités des saints? Eh bien, c'est en partageant nos ressources. C'est quand même beau de voir que dans la Bible, on a dès la naissance de l'Église des chrétiens qui vont être extrêmement généreux les uns avec les autres. J'ai entendu parler tout récemment, de manière très concrète, d'une église en région parisienne, à Paris en fait, où ils doivent faire des gros travaux pour rénover le bâtiment de l'église. Et il y a des membres de l'église qui ont dit, ben, nous, on annule nos vacances d'été pour consacrer cet argent à la rénovation du bâtiment. Alors, ce n'est pas d'un saint en particulier ici, mais c'est dès ça de manière générale. C'est pour le bien de l'ensemble des saints qu'ils ont fait cela. Et puis, en nous appliquant à l'hospitalité, je crois que dans notre monde individualiste et dans nos petits appartements où on vit souvent, si vous vivez en ville, ce n'est pas facile d'exercer l'hospitalité, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit tendre à vivre. On doit avoir des maisons ouvertes. Et entre chrétiens, on devrait avoir une joie particulière voilà, de recevoir des frères et sœurs pour un repas ou peut-être même pour une ou deux journées, de passer du temps ensemble. La vie chrétienne, c'est quelque chose de relationnel et on doit cultiver ces relations, entre autres en exerçant l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, la huitième exhortation. Waouh, là, c'est pas évident. On est loin de la règle du talion qu'on voyait dans l'Ancien Testament. La règle du talion qui disait œil pour œil, dent pour dent dans l'Ancien Testament, c'était une règle qui était bonne et c'était une règle par laquelle Dieu mettait une limite au mal. La logique de la règle du talion, c'était de dire si quelqu'un te fait du mal, tu vas pas lui faire plus de mal qu'il ne t'a fait. Au contraire, tu dois contenir le mal pour pas qu'il y ait un débordement. Donc la règle du talion, elle était bonne, mais ici, Paul va encore plus loin. Il dit, au lieu de rendre le mal, en fait, tu dois rendre le bien. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. On a là de nouveau un parallélisme avec positif, bénissez, et ensuite négatif. Donc, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Ne maudissez pas. Et mes amis, je pense que là, on a vraiment une occasion d'amener un impact fort. Si on est prêt à bénir au lieu de maudire, le jour où on est dans un cas de persécution, les persécuteurs vont être repris. Peut-être pas qu'ils vont changer d'attitude, mais malgré tout, ça va laisser des marques. Et je pense que notre attitude dans le cas de la persécution, face à la persécution, c'est quelque chose qui est décisif. Ça a été quelque chose qui est décisif dans l'histoire de l'Église, hein. Si vous regardez un petit peu l'histoire des martyrs, leur attitude par rapport à leurs persécuteurs ont souvent marqué des personnes. On a par exemple des témoignages hein, dans l'Empire romain où on a des chrétiens qui chantaient des psaumes pendant qu'ils se faisaient manger par des fauves. Et on avait apparemment, ça c'est des témoignages qu'on a, hein, d'amphithéâtres silencieux, tellement les gens étaient saisis de voir ces croyants qui étaient prêts à mourir pour leur foi et qui avaient une telle attitude par rapport à ceux qui les persécutaient. Neuvième, on avance, Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Encore un parallélisme. On a l'aspect positif de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Ici, je crois qu'on a une clé de la relation d'aide, une clé de notre accompagnement des autres chrétiens. Alors, c'est valable aussi pour ceux qui sont non chrétiens. Là, Paul spécifie pas si c'est qu'avec les saints ou avec l'ensemble des personnes, mais en particulier avec les chrétiens. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est quelque chose qui est fort. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours trouver des solutions. Quand quelqu'un pleure, je me dis, bon, il faut faire quelque chose. Mais ici, Paul nous dit, non, pleurez avec ceux qui pleurent. On doit aussi prendre le temps, être simplement là avec les frères et sœurs. Et je crois qu'on a là une ressource dans l'Église. Avec d'autres personnes qui sont avec nous, qui sont prêts à se réjouir quand on se réjouit avec nous et qui sont prêts à pleurer avec nous quand on est dans une période difficile. Voilà, c'est de nouveau quelque chose de magnifique et d'extrêmement enthousiasmant de penser que c'est comme ça que fonctionne le peuple de Dieu. La dixième exhortation, ayez les uns envers les autres un même sentiment. On arrive à l'humilité, hein. Ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux sages, aux humbles, pardon. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. L'humilité, c'est un grand thème dans toute la Bible. Et moi, j'aime bien dire, c'est probablement la première vertu du chrétien. Pourtant, c'est quelque chose qui est pratiquement absent. Je ne sais pas si ça va être très vendeur si vous mettez dans votre CV comme caractéristique de votre personnalité que vous êtes quelqu'un de humble. Je pense que vous avez peu de chances de décrocher un emploi, mais la Bible insiste tellement sur cette doctrine de l'humilité. C'est intéressant, par exemple, Moïse lui-même, hein, on le voit dans Nombre 12, verset 3, Moïse lui-même, il est appelé dans le livre des Nombres, l'homme le plus humble ou le plus doux, en fonction des traductions que vous avez, de la terre. C'est intéressant parce que Moïse a eu une tâche colossale de prendre un peuple d'à peu près 2 millions de personnes, de sortir de l'administration égyptienne et de donner, alors c'est Dieu qui a donné, hein, mais c'est par l'intermédiaire de Moïse, il a donné des lois, il a donné un système de sacrifice, il a donné un tabernacle, il a donné des juges, il a donné des leaders, il a donné toutes ces choses-là. Nous, si on avait dû choisir un candidat pour ça, on aurait sans doute choisi quelqu'un avec un fort charisme, mais Dieu a choisi l'homme le plus humble de la terre. C'est pas pour rien. C'est parce que Dieu mérite toute la gloire. Et ce n'est pas à nous que la gloire doit revenir, c'est à lui. Et du coup, on est appelé et on doit absolument vivre cette humilité. Et cette humilité, ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit subir, c'est quelque chose qu'on doit vivre dans l'imitation de Jésus-Christ. D'ailleurs, quand Paul, dans l'Épître aux Philippiens, parle de l'humilité, il cite comme exemple suprême d'humilité Jésus-Christ. C'est dans Philippiens chapitre 2 qu'il nous dit ceci. Ne faites rien par esprit de rivalité. Donc c'est chapitre 2, verset 3, hein, Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Jésus est celui qui s'est humilié de manière au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et nous, à sa suite, on doit vivre la même humilité. L'humilité, en fait, c'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. C'est parce qu'on doit, premièrement, réaliser qu'on est pécheur pour pouvoir devenir chrétien. On doit réaliser qu'on n'est pas capable et qu'on a besoin de Dieu. Mais c'est aussi l'humilité, ce qu'on doit vivre dans la continuation de la vie chrétienne. En fait, on ne doit pas chercher de bons leaders. On ne doit pas chercher à être de bons leaders. Enfin, oui, dans un sens. Mais on doit être avant tout de bons suiveurs. On doit suivre Christ et on doit vivre l'humilité par rapport à nos frères et sœurs. On doit chercher leurs intérêts. On doit chercher ce qui est bien pour eux. Et c'est ça, vivre l'amour sans hypocrisie. C'est en nous donnant à l'autre. Alors ne soyons pas sages à nos propres yeux. Peut-être qu'on a compris certaines choses. Peut-être qu'on a mieux compris certaines choses que d'autres. C'est possible, c'est probable. Mais malgré tout, On doit toujours considérer les autres et on ne doit pas être sage pour nous-mêmes, mais on doit considérer Dieu comme étant la source de toute la sagesse. Le 11e élément, et on s'approche petit à petit de la fin, ne rendant à personne le mal pour le mal, vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. Je le relis simplement dans la version Second 21 pour avoir une autre version. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ici, on a comme un écho avec le deuxième qu'on a vu, hein. Ayez le mal en horreur, tenez ferme au bien. Mais ici, c'est enfin la deuxième exhortation était plutôt générale, hein, de manière générale. Ayez le mal en horreur, tenez ferme au bien. Mais ici, c'est spécifique au domaine de nos relations avec les autres. Ne rendant à personne le mal pour le mal, vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. Donc on doit, dans nos relations, arrêter de cultiver le mal, mais au contraire, faire le bien. Et ça, c'est très concret, hein. C'est des choses qu'on doit vivre dans notre quotidien. On doit cultiver ce bien non seulement à l'intérieur de nous, mais aussi dans nos interactions avec les autres. On avance. La 12e exhortation, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Et moi, j'apprécie beaucoup celle-ci parce que elle est pleine de réalisme. Hein. Si il est possible, autant que cela dépende de vous. Pourquoi? Parce que la paix, c'est quelque chose qui doit se bâtir à deux parties. Et du coup, si moi je veux être en paix, mais que l'autre en face veut pas être en paix, on n'arrivera pas à vivre la paix l'un avec l'autre. Donc, s'il est possible, autant que ça dépend de nous, nous, on doit faire tout notre possible pour vivre la paix. Mais évidemment, si l'autre ne veut pas vivre cette paix-là, on ne peut pas créer quelque chose qui est impossible à créer. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire la paix avec nous. Mais nous, on doit être des artisans de paix. On doit cultiver cette paix-là. Et là, voilà, je veux juste mentionner un petit exemple. Moi, j'ai souvent été un mauvais exemple pour ce qui est de cultiver la paix. Mais récemment, ça m'est arrivé un moment où je pense que j'ai obéi à cette exhortation-là ou à ce commandement-là. Moi, je fais pas mal de vélo dans la ville de Genève. Et puis, un jour, voilà, j'étais sur une piste cyclable partagée avec des piétons. Et il y avait un monsieur qui promenait son chien. Et puis, son chien, il allait un peu à gauche et à droite. Et du coup, moi, je voulais passer d'un côté. Et puis, du coup, je suis passé de l'autre côté. Et ce monsieur, il s'est fâché. Et puis, il était énervé parce que je passais là, alors qu'en fait, j'avais le droit d'être là. Mais voilà, je lui avais fait peur, je pense, et tout ça. Alors, je me suis arrêté. J'ai mis la béquille à mon vélo. Puis, je pense qu'il avait un peu peur de ma réaction parce qu'il s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'il vient faire? Et puis là, je lui demandais pardon. Je lui dis voilà que j'allais faire plus attention à l'avenir et que j'étais désolé de lui avoir fait peur et tout ça. Et au début, il était un petit peu virulent, il était fâché et tout ça. Mais malgré tout, au bout d'un moment, je lui dis écoutez, bon, vous avez le choix de me pardonner ou pas me pardonner. Alors le gars, il hallucinait un petit peu. Hein. Il devait se dire mais c'est qui ce type-là? Mais au bout d'un moment, il m'a dit bon bah ok, je vous pardonne. Et puis c'était beau de voir que ce gars finalement, il avait pas de prise, il voulait un petit peu aller au conflit, quoi. Mais en fait, bah, finalement, il m'a pardonné. Puis j'ai pu lui dire, OK, bah, merci beaucoup de m'avoir pardonné. Et puis je suis parti, j'ai continué mon chemin. Mais voilà, c'était exactement cette exhortation-là que j'ai pu vivre à cette occasion-là avec ce monsieur. Alors, comme j'ai dit, c'est un exemple positif. Il y a bien des fois où, malheureusement, j'ai pas pu vivre cette exhortation-là, mais voilà une fois où une fois où je l'ai vécu. Alors, la suivante, la 13e, l'avant-dernière, hein, elle est plus longue en termes de texte parce que Paul cite deux textes de l'Ancien Testament pour asseoir ce qu'il dit. Mais l'exhortation elle-même, elle est toute simple. Ne vengeant pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Donc, sous-entendu, d'ailleurs, je pense que dans la Second 21, c'est ça, c'est la colère de Dieu. C'est sous-entendu la colère de Dieu. Car il est écrit, et là, il va citer donc deux textes, un texte du Deutéronome, chapitre 32, verset 35, et puis ensuite un texte de Proverbes, chapitre 25, versets 21 et 22. Donc, tout d'abord, dans les Proverbes, hein, on est là dans une citation de. C'est tout un chapitre, en fait, où on a une espèce de cantique de Moïse. Et puis, dans ce cantique, à un moment donné, c'est plus Moïse qui parle. Tout d'abord, c'est toujours Moïse qui parle et il parle de Dieu à la troisième personne. Mais tout d'un coup, il y a un changement où c'est Dieu lui-même qui parle. Et quand Dieu parle, il va dire à un moment donné, à moi la vengeance. Moi, je rendrai, dit le Seigneur. Et voilà, on se pose des fois la question, par exemple, par rapport au psaume imprécatoire, on est un peu surpris de ces psaumes où la personne, elle demande à Dieu d'intervenir, mais on doit se souvenir qu'en fait, Dieu est juste, Dieu déteste le mal. Et dans un sens, ça nous terrifie, ça nous remplit de crainte que Dieu déteste le mal, mais en même temps, ça nous rassure, parce que ça nous montre qu'un jour, le mal aura un terme. Un jour, le mal sera jugé. Un jour, le mal sera détruit, extirpé de la création. On vivra dans un monde où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que toutes ces choses-là seront terminées. Et du coup, on n'a plus besoin de se venger. En fait, la justice sera accomplie. On n'a plus besoin d'exercer cette vengeance nous-mêmes. Et j'apprécie là la petite mention de Paul, bien-aimé. Ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimé. Quand on sent cette colère qui brûle en nous, Paul nous met un peu de baume en nous disant, bien-aimé, vous êtes mes bien-aimés, vous êtes les bien-aimés du Seigneur, et par conséquent, vous n'avez pas besoin d'être en colère, vous pouvez simplement laisser Dieu intervenir et agir. Et puis du coup, il en tire une application concrète par rapport à nos ennemis. Si donc ton ennemi a faim, tu n'as plus besoin d'essayer de te battre contre lui, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et là, il y a cette phrase un petit peu énigmatique qui vient des Proverbes, justement. Alors, tous les commentateurs n'ont pas la même interprétation de cette phrase. Car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je ne crois pas qu'on va augmenter son jugement. En fait, Dieu va juger de manière juste. C'est pas parce que nous on le fait pas que Dieu, enfin c'est pas parce que nous on le fait ou pas que Dieu va plus ou moins juger la personne. Non, Dieu va juger de manière juste. Mais je crois que en fait on va potentiellement pouvoir déclencher une bonne culpabilité chez cette personne. C'est-à-dire, par bonne culpabilité, j'entends une culpabilité qui va l'amener à changer, l'amener à avoir une attitude différente. Et voilà, je pense que c'est un exemple qu'on peut rendre. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce qu'on va augmenter cette culpabilité dans son cœur, qui potentiellement va le faire par la suite changer d'attitude. De nouveau, c'est une image qui est pas si simple à comprendre et sur lesquelles différents commentateurs ont différentes interprétations. Là, je vous donne la mienne, celle que voilà, je suis pas le seul à la voir, hein, mais d'autres commentateurs la partagent, mais qui me semble faire le plus de sens. Donc, ouais, c'est tout un programme. Et là, on peut réfléchir, hein, à nos ennemis. Alors, on n'a peut-être pas des ennemis mortels, hein, des personnes qui en veulent à notre vie, mais s'il y a des personnes avec qui on a plus de difficultés, se dire, OK, quelqu'un me veut du mal, moi, je vais lui faire du bien. Si il a faim, je vais lui donner à manger. S'il a soif, je vais lui donner à boire. Et en faisant cela, peut-être que son cœur va être touché et qu'il va changer d'attitude par rapport à ça. On termine avec la dernière, la quatorzième, et ensuite on fera juste quelques applications, pardon. La dernière, en quelque sorte, elle clôt. Au même titre que l'amour soit sans hypocrisie, c'était un petit peu l'entrée dans cette série d'exhortations. La quatorzième, c'est un petit peu la sortie. Et il y a même une sorte d'effet miroir entre les deux, entre la deuxième aussi. Ayez le mal en horreur, tenez ferme au bien. Et ici, ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est un petit peu la même idée qu'il y a ici. Paul nous dit, tu dois pas être contaminé, mais au contraire, c'est par le bien que tu dois vaincre le mal qui est en toi. Et en quelque sorte, la boucle est bouclée. Comment vivre l'amour sans hypocrisie? C'est en bannissant le mal, en faisant le bien avec nos frères et sœurs en Christ, le bien en aimant le Seigneur, mais le bien aussi avec ceux qui nous persécutent, avec nos ennemis et aussi avec tous les hommes. Voilà ce que Paul nous laisse ici. Et il nous reste quelques minutes pour simplement évoquer des applications. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de ça? Parce que je crois que la Bible ne doit jamais être lue pour des raisons intellectuelles seulement. Bien sûr, il y a des tas de belles choses intellectuellement à découvrir dans la Bible, mais on ne doit pas s'arrêter là. La Bible doit être lue en vue d'une transformation de nos cœurs. Et la transformation de nos cœurs doit ensuite se transformer, enfin, s'étirer jusqu'à une transformation de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Alors, j'aimerais vous proposer quelques applications. Premièrement, vous pouvez relire ce texte et naturellement, et on a raison de le faire, quand on lit ce texte, on pense à nous, à notre comportement, ou alors au comportement des autres, peut-être éventuellement. Mais j'aimerais vous inviter à relire ce texte, et peut-être je vais l'afficher comme je l'avais mis tout à l'heure, là, en entier, à relire ce texte pour vous-même ce soir ou demain ou d'ici la prochaine fois qu'on se voit dans 2 semaines, en pensant ni à vous ni aux autres, mais à Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'exemple parfait qui a vécu cela. Que l'amour soit sans hypocrisie. N'a-t-il pas vécu cela parfaitement? Il dit qu'il a aimé ses disciples jusqu'à l'extrême. Il les a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, afin qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Ayez le mal en horreur, tenez ferme au bien. Lui, il n'a jamais péché. Il a vécu une vie parfaite. Le seul à avoir vécu une vie exempte de tout péché. Quant à l'amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Quelque chose que, bien sûr, Jésus a vécu parfaitement, que ce soit avec ses disciples ou aussi avec ceux qui l'ont persécuté. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, que ce soit avec tous les hommes, que ce soit, enfin, etc., etc. Vous pouvez vraiment relire ce texte et vous dire, Jésus l'a vécu parfaitement. Et du coup, c'est pas juste quelque chose qu'on doit construire par nos forces, mais Jésus nous montre la voie. En fait, ce qu'on doit faire dans cette descriptive, c'est suivre Jésus, c'est vivre comme il a vécu. On ne le vivra pas parfaitement, malheureusement. On a encore le vieil homme qui voilà, nous tire vers le bas, qui nous permet pas de vivre parfaitement ce que Dieu attend de nous. Mais en suivant Christ, on est sûr d'aller dans la bonne direction. C'était la première application. Deuxième application, je crois qu'on a là en quelque sorte une grille d'analyse. On a 22 exhortations ou 14 comme moi je les ai divisées. En fait, c'est une grille d'analyse qu'on peut faire pour notre propre introspection. Si vous voulez prendre le temps, de nouveau cette semaine, en relisant ce texte, premièrement, vous pouvez le lire en pensant à Christ, mais deuxièmement, le lire en pensant à vous-même. Et vous faire cette remarque, enfin vous faire cette réflexion. Où est-ce que j'en suis par rapport à chacune de ces 14 exhortations? On en a parlé tout à l'heure, hein, suite à une question. Où est-ce que j'en suis dans mon amour sans hypocrisie? Est-ce que j'aime vraiment? Où est-ce que j'attends un petit peu quelque chose en retour au niveau de mes relations? Est-ce que j'aime d'un amour qui découle de l'évangile, qui découle de ce que Christ a fait pour moi, de ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, et etc. Vous pouvez faire toute la liste comme ça. Je pense que c'est en fait, voilà, un peu un moyen de faire un diagnostic, une checklist que Paul nous laisse pour voir est-ce qu'on vit des relations qui découlent de l'évangile au quotidien. Et je pense que ça nous fait du bien de prendre un temps, ou voilà, peut-être même avec un frère ou une sœur, de prendre un temps pour faire le point et se dire, OK, par rapport à chacun de ces 14, où est-ce qu'on en est? Et peut-être d'en cibler un en disant, OK, ça, c'est un domaine où je dois progresser. Alors, vous pouvez prier et vous pouvez demander de l'aide d'un frère ou d'une sœur qui va vous dire, OK, ben voilà comment on peut faire pour t'aider à progresser par rapport à cela. Moi, je suis pas assez persévérant dans la prière. Par exemple, voilà, j'ai du mal à vraiment avoir une vie de prière régulière. Et là, vous allez voir un frère ou une sœur et vous lui demandez comment toi tu fais? Comment tu fais pour être persévérant, pour rester persévérant et pas juste être persévérant un jour ou deux. Et si c'est un frère ou une sœur qui a un petit peu plus de bouteilles, un peu plus d'années de vie chrétienne que vous, il aura sans doute beaucoup de tuyaux à vous donner, beaucoup d'éléments pour vous aider par rapport à cela. La troisième application, c'est lié aussi à ce qu'on discutait tout à l'heure par rapport au légalisme et au laxisme. C'est lorsque vous lisez ce texte, lorsque vous relisez ce texte cette semaine, souvenez-vous, et j'insiste là-dessus, souvenez-vous que ces éléments-là découlent de ce que Dieu a fait pour vous, pour nous. En fait, ces choses-là, on les vit parce qu'on a la foi en Jésus-Christ. On les vit parce que Dieu nous a transformés. Et du coup, en fait, vivre ces choses-là, ce n'est pas un motif d'orgueil en disant « Ah, regardez comme je suis un super chrétien, moi je vis ces choses-là de manière prodigieuse. » Non, c'est une manière de glorifier Dieu parce que ces choses-là, lorsqu'on les vit, elles sont le fruit de l'action de Dieu dans nos vies, de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et de l'action de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Donc, ces choses-là ne nous pousseront pas à l'orgueil, mais au contraire à l'adoration, à glorifier Jésus-Christ. La quatrième application que j'aimerais vous laisser, c'est lorsque vous lisez aussi ce texte cette semaine, voyez-le comme un programme de vie magnifique. C'est pas juste des choses à faire et à ne pas faire. En fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de pouvoir vivre l'amour sans hypocrisie. Je me rappelle d'une fois où voilà, j'avais été appelé à intervenir pour aider une femme de notre église qui était suivie par des psychiatres et par différentes personnes. Voilà, c'était une femme qui avait voilà, quelques problèmes de santé. Et elle m'avait demandé en tant que pasteur d'intervenir avec les autres professionnels de santé qui étaient autour d'elle. Et j'étais venu autour de la table. Et cette femme, elle avait un différend avec une autre personne qui était sur la table. Et cette autre personne, elle se défendait. Bon, voilà, elle voulait pas reconnaître son erreur. Et je me suis dit, c'est tragique. Alors, c'était pas une personne chrétienne, donc on comprend que voilà, elle n'arrive pas à demander pardon, mais en fait, en tant que chrétien, nous, on a d'autres valeurs. On a des relations qui sont belles. On peut vivre l'amour sans hypocrisie les uns avec les autres. On a un programme relationnel extraordinaire. On peut avoir le mal en horreur, tenir ferme au bien. On peut vivre plein d'affection les uns avec les autres. On peut rendre l'honneur à ceux qui méritent de recevoir l'honneur, à ceux qui font des belles choses, y compris des petites choses, mais qui font des belles choses. On peut être fervent d'esprit, on peut servir le Seigneur, etc., etc. C'est un programme de vie, bon, qui nous intimide par certains aspects, mais c'est un programme de vie qui est malgré tout magnifique, qui est beau, qui donne envie. Moi, c'est la vie que j'ai envie de vivre. Donc voilà, quand vous lisez ce texte cette semaine, et puis ensuite j'aurai une dernière application, premièrement, lisez-le en pensant à Jésus-Christ. C'est lui qui a vécu parfaitement ces choses. Deuxièmement, vivez-le dans l'introspection comme une grille d'analyse de votre propre vie. Troisièmement, lisez ce programme comme découlant de votre foi en Jésus-Christ et du coup un moyen d'adorer. Quand vous pouvez vivre ce programme, vous pouvez adorer Dieu et non pas devenir orgueilleux. Quatrièmement, vivez-le comme un programme magnifique. C'est la vie de rêve qu'on a envie de vivre en tant que chrétien. Et puis, le cinquième et dernier élément, c'est un programme qu'on devrait vivre en tant qu'Église. Alors, bien sûr, on doit le vivre à un niveau individuel, mais ça devrait être aussi notre programme de vie en tant qu'Église. On devrait développer ces choses-là en tant qu'Église, apprendre à honorer nos frères et sœurs dans notre Église locale de manière très concrète, les uns avec les autres, apprendre à se réjouir dans l'espérance, être patient dans la tribulation, à persévérer dans la prière avec ceux qui souffrent, les uns avec les autres, apprendre à donner à ceux qui sont dans la nécessité, apprendre à vivre l'hospitalité, à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, etc., etc., etc. Dieu nous a pas mis tout seul, mais il nous a mis avec tout un peuple qui est là pour qu'on puisse s'affûter les uns les autres et progresser dans ce programme magnifique dans lequel il veut qu'on vive. Donc, voilà, si vous êtes impliqué dans une église locale, si vous n'êtes pas impliqué dans une église locale, allez dans une église locale. S'il y en a une proche de chez vous, allez-y. Une église fidèle à Jésus-Christ, allez-y. Mais dans l'église où vous avez le privilège de grandir, vivez ces choses, pas juste vous-même, mais cultivez cela en église, les uns avec les autres, pour que Dieu soit glorifié et pour que voilà, la magnificence de l'église puisse être vécue et bien vécue. Voilà, je m'arrête là. Pour cette deuxième partie, je vais simplement prier et ensuite je vais rendre la parole à Antoine pour le temps de questions. Je prie. Prions. Seigneur, on te remercie pour ce texte magnifique. On te remercie parce que ce texte, il découle de tout ce qu'on a vu sur l'Évangile. Au chapitre 5, au chapitre 8, on a vu que toi, tu nous as aimés alors qu'on n'était pas aimables. Tu as mis dans notre cœur un amour qui vient de toi. Tu nous as aimés en Jésus-Christ, au-delà de tout ce qui est possible et imaginable. Et merci, parce que sur la base de cet amour, Paul nous encourage, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte ou un service raisonnable. Merci, parce que on peut entrer dans ce programme par tes forces, par ta puissance. Et merci parce qu'on peut vivre cette vie magnifique que tu nous proposes de vivre, réconcilier avec toi, réconcilier les uns avec les autres, en harmonie les uns avec les autres. Aide-nous à nous lancer dans ce programme avec tes forces, mais avec toute notre énergie, avec toute notre volonté. Aide-nous à grandir, à progresser. Aide-nous aussi à aider nos frères et sœurs à grandir et à progresser dans cette vie-là, afin que nous puissions vivre cette vie de sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Seigneur, je te prie ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup, Jonathan, pour cette présentation de ce plan de travail pour notre vie chrétienne. Alors, on a quelques questions qui se rapportent en fait à ces différents points qui ont été vus. Tout d'abord, il y a, je crois, au début, tu as parlé un peu d'encouragement, s'encourager les uns les autres, encourager les frères et sœurs. Et il y a une question qui m'est venue sur le sujet suivant, quelle est la différence entre l'encouragement et la flatterie? Parce que parfois, des fois, on peut être bien intentionné, mais on peut aussi avoir une attitude peut-être pas tout à fait correcte.
Tout à fait. Et je pense que là, on entre, enfin, on doit lire toutes ces exhortations comme un ensemble. Et je pense que, ben, je l'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, un petit peu le chapeau de tout ça, c'est que l'amour soit sans hypocrisie. Je pense que la flatterie, c'est en quelque sorte un encouragement teinté d'hypocrisie, ou alors teinté enfin, ou une tentative de ramener la couverture à soi. Quand on flatte, en fait, ce qu'on cherche, c'est pas le bien de l'autre. On cherche pas à vivre l'amour sans l'hypocrisie, l'amour sans hypocrisie, c'est-à-dire à se donner à l'autre. On cherche à gagner quelque chose, en fait. Et du coup, moi, c'est là que je mettrais la limite. Alors, il y a une sagesse à avoir, hein, c'est clair, parce que bon, on sait jamais comment un encouragement va être reçu de la part d'une personne. Et c'est clair que voilà, il faut pas en faire trop. Et voilà, on a dans chaque contexte, on sait que et là, je sais qu'il y a, il y a un vecteur un peu culturel, hein, qui rentre en ligne de compte, parce que dans différentes cultures, on n'encourage pas toujours de la même manière ou avec la même intensité. Donc, il y a une sagesse à avoir. Donc, mais je crois quand même que cette exhortation, elle nous invite à ne pas être radin en encouragement, à encourager, Parfois, le Seigneur permet des épreuves pour, ben voilà, quand on commence à tomber dans l'orgueil, c'est un petit peu lui qui va nous remettre à notre place. Et c'est pas à nous de faire le travail du Seigneur et de dire, OK, toi, tu es en train de tomber dans l'orgueil, je vais te remettre à ta place. Non, nous, ce que la Bible nous invite, c'est plutôt à encourager les frères et sœurs. Mais on doit le faire avec de bonnes motivations, à savoir pas en essayant de gagner quelque chose pour nous-mêmes, mais pour le bien vraiment de la personne. On se donne pour la personne afin qu'elle puisse grandir.
Merci. Et puis on a deux questions concernant l'hospitalité.
Oui.
Alors une première question, l'hospitalité, littéralement, l'amour de l'étranger, cela ne va-t-il pas au-delà de recevoir des frères et sœurs? Parce que c'est vrai que dans la phrase juste avant, il est parlé des saints, mais est-ce que c'est plus
Ouais,
large que ça en fait?
exactement. Alors, il faut différencier le principe biblique de l'exhortation telle qu'elle est écrite ici. Je crois que dans le texte ici, il est question plutôt de l'hospitalité au sein du corps de Christ entre frères et sœurs. Mais par ailleurs, bien sûr, la Bible nous invite à être hospitaliers envers ceux qui ne sont pas des frères et sœurs. Bon, j'ai pas de texte là en tête tout de suite, mais bien sûr, l'hospitalité de manière absolue devrait être une vertu chrétienne. Et du coup, bah, tout à fait, c'est ça, l'amour de celui qui est différent, l'amour de l'étranger, ça devrait être une vertu chrétienne qu'on devrait cultiver. Mais malgré tout, il me semble que dans ce texte-là, de manière spécifique, comme on a pourvoyé aux besoins des saints et exercé l'hospitalité avec empressement, il me semble, même si en fait les saints est plutôt lié aux besoins, mais pas à l'hospitalité, mais comme les deux sont un peu pris ensemble, il me semble que ça fait sens de dire que dans Romains 12, 13, il est plutôt question de l'hospitalité des frères et sœurs. Mais de nouveau, c'est un principe biblique. On doit vivre l'hospitalité envers tous, ça c'est clair, ouais.
Une question qui nous vient d'un frère qui vit en Afrique, où les circonstances sont un peu plus difficiles pour beaucoup de nos frères et sœurs, et aussi en rapport avec l'hospitalité. L'apôtre Paul s'adresse-t-il à une classe de personnes? Parce que tous les chrétiens sont-ils capables de nourrir les saints et d'exercer l'hospitalité? Est-ce qu'on doit blâmer un frère ou sœur s'il n'est pas capable, ou s'il en a pas
Ouais,
les, ou s'il en a pas les moyens? Pourrais-je rajouter.
j'entends. Ben, en fait, bon, on peut répondre en disant que, en fait, en creux, si Dieu nous invite à pourvoir aux besoins des saints, ça signifie qu'il y a des saints qui sont dans le besoin et qui ont besoin qu'on pourvoie pour eux, n'est-ce pas? Donc, on peut dire qu'en creux, en fait, derrière cette exhortation de Paul, il y a l'idée qu'il y a des saints qui ont besoin d'être soutenus et des saints qui ont la possibilité de soutenir. Je crois que y a une question de disposition du cœur qui est essentielle. Jésus fait l'éloge de la veuve qui a donné deux petites pièces d'argent dans le tronc. Rien. C'est une toute petite somme, mais Jésus pointe sur le fait que elle a donné plus que les autres parce qu'elle a donné de son nécessaire. Et ce que Jésus montre, c'est qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas le montant, ce qui compte, c'est l'état du cœur. La question à se poser, c'est est-ce que j'aime l'argent ou est-ce que j'aime mon frère? Est-ce que j'aime Dieu au point de soutenir mon frère avec les moyens que j'ai? Et bah voilà, il faut qu'on analyse notre situation. C'est clair qu'on n'a pas tous les mêmes ressources. Et c'est le cas aussi en Europe, hein, on n'a pas tous les mêmes ressources. Il y a des personnes qui sont dans une grande précarité et il y a des personnes pour qui ce sera un manque de sagesse de soutenir à l'excès. On était aux États-Unis pendant une année et le pasteur nous a raconté l'histoire d'une femme qui donnait l'intégralité de son salaire chaque mois à l'église. Et à un moment donné, ils ont dû aller voir cette dame avec les anciens et lui dire, mais maintenant, il faut arrêter. Parce que le problème, c'est que cette dame, c'était une dame qui était assez précaire. Elle donnait tout. Et c'était beau parce que voilà, c'était une générosité. Mais en fait, c'était une dame qui se mettait dans les problèmes elle-même. Et je crois qu'il y a quand même, et ça se justifie, hein, une sorte de nécessité de pourvoir à ses besoins familiaux et d'être généreux par-dessus. Mais malheureusement, je pense que notre tendance est quand même à aimer l'argent. Et la générosité, c'est un moyen d'apprendre à lutter contre notre propre idolâtrie de l'argent. Voilà, soyons généreux, y compris avec des petits montants. Et être généreux, c'est pas seulement avec son argent, c'est aussi avec d'autres choses, hein, c'est aussi avec son temps, c'est aussi avec son attention. On peut passer un temps en étant attentif aux besoins d'un frère ou d'une sœur, et ce sera aussi de la générosité. Ça peut être aussi par de l'entraide pratique qu'on va pouvoir vivre cette générosité. Donc, je pense que voilà. Depuis le millionnaire qui va être capable de donner des sommes astronomiques, jusqu'à celui qui pourra rien donner, mais peut-être juste passer quelques minutes avec un frère, et prendre soin de lui, on doit vivre cette générosité, et c'est d'abord, avant tout, une attitude du cœur qu'on doit cultiver.
Et peut-être qu'à l'image de cette femme qui a donné ces deux pièces d'argent, on peut se dire que l'hospitalité, elle peut se faire de manière très très simple. On
Absolument.
peut inviter quelqu'un pour un petit repas
C'est ça.
sans que Dieu nous le reproche quelque part.
Ouais, j'avais fait ça une fois en illustration d'une prédication. J'avais pris avec moi 2 kilos de pâtes et 2 sauces tomates. Et j'avais dit aux gens de l'assemblée, enfin à 2 familles de l'assemblée, j'avais dit, je vous les donne et vous pouvez faire un repas pour d'autres de l'église avec ça. Vous n'avez pas besoin de mettre les petits plats dans les grands. Vous pouvez vivre un très bon moment avec juste des pâtes à la sauce tomate. Ou si vous êtes en Afrique, peut-être ce sera des haricots ou du riz ou que sais-je. Enfin voilà, le repas le plus simple dans votre culture, ici en Suisse, c'est les pâtes à la sauce tomate, c'est le repas le plus simple. Donc voilà, n'essayons pas d'en mettre plein la vue, mais soyons simples les uns avec les autres. Ouais, je pense que c'est quelque chose de magnifique qu'on peut vivre en tant qu'église.
Dans les applications que tu as données, les 5 applications, si je me rappelle bien, il y en a une qui parle de programme d'église, de mettre en pratique en fait ce programme aussi dans l'église, ce qu'on a étudié ce soir. Et il y a une question qui la personne nous demande, comment aider un pasteur qui prêche l'amour mais qui ne vit pas ça en pratique? Alors que ce sont des choses que lui-même enseigne aux autres. C'est un petit peu la difficulté de tous les enseignants. Est-ce qu'on est parfait?
Moi, j'aime bien dire que, en fait, en tant que prédicateur, l'enseignant, c'est Dieu. C'est-à-dire que nous sommes les premiers enseignés. Dieu nous enseigne par sa parole. Et en tant que prédicateur, notre rôle, c'est pas d'inventer un enseignement, c'est de simplement mâcher cet enseignement toute la semaine pour pouvoir ensuite le redonner de manière compréhensible à une assemblée. Et on va pouvoir grandir ensemble sous l'autorité de Dieu. Alors, comment encourager un pasteur? Moi, je crois que, premièrement, il faut le faire avec beaucoup de bienveillance, comme on a vu dans ce texte, là, sans essayer d'imposer des choses, mais en l'encourageant. Et voilà, je crois que petit à petit, il y a peut-être des raisons pour lesquelles il vit, enfin ce pasteur-là, il ne vit pas ces choses-là, ou peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels il les vit quand même, et des do domaines dans lesquels il les vit pas. Je crois que voilà, il y a des moments, c'est possible de reprendre un pasteur, parce que tous les frères et sœurs peuvent être repris, hein, on est frères et sœurs et on a la possibilité de se reprendre les uns les autres, mais je pense qu'il faut être modeste, il faut être humble et il faut, enfin, je préférerais aller par des encouragements et des exhortations plutôt que par le fait de reprendre quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un qui a des responsabilités dans une église locale. Je pense qu'il faut être, voilà, il faut être sage et y aller petit à petit. Il faut aussi commencer par la prière, prier pour la personne. Et voilà, lui montrer un bon exemple et vivre ces choses-là. Je crois qu'on peut imposer des changements aux gens, mais malheureusement, quand on impose des changements aux gens, c'est rarement des changements très durables. Ou alors, on peut convaincre les gens que ce que Dieu nous propose est ce qu'il y a de meilleur. Et alors là, les gens vont y rentrer de leur pleine volonté, et ce sera beaucoup plus durable que si on leur impose un changement simplement en leur disant tu dois faire ceci ou cela. Donc moi j'encouragerais ça, de montrer l'exemple et d'encourager positivement pour que la personne réalise qu'en fait, et pasteur ou pas pasteur, c'est le cas, la personne réalise que c'est ce qu'il y a de mieux à vivre dans la vie chrétienne.
Merci. Il y avait un point qui avait été cité, c'était le verset 12, où tu parlais des difficultés qui pouvaient, enfin, des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie chrétienne. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et puis, il y a un auditeur qui réagit en citant un petit peu ce qui se passe avec l'évangile de prospérité, en réalité. Pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un traverse des épreuves, on dit qu'il a péché contre Dieu? Pourquoi dit-on de plus en plus qu'un chrétien ne doit pas souffrir? Comment faire face à ces genres d'enseignements qui sont très répandus de nos jours? Alors, je conçois que c'est peut-être un sujet complet en soi, mais je ne sais pas si tu as quelques mots à donner en réponse.
Je crois que l'évangile de la prospérité, et je dois le définir là en disant que l'évangile de la prospérité, c'est un évangile qui dit qu'on aura sur cette terre une prospérité financière et une santé, une bonne santé en tant que chrétien. Cet évangile, il est extrêmement dangereux parce qu'en fait, il ressemble à l'évangile biblique. Mais il n'est pas l'évangile biblique. Ce que l'évangile biblique promet est beaucoup mieux que l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire que l'évangile biblique promet non pas une bonne santé, mais une vie éternelle. L'évangile biblique promet non pas la prospérité financière, mais des richesses extraordinaires de bénédiction de la part de Dieu et une place pour l'éternité dans sa présence. Voilà ce que l'évangile biblique nous promet. Et en fait, l'évangile de prospérité, c'est juste un petit évangile, mais il peut être tentant. Et mes amis, si vous regardez un tout petit peu ce que les auteurs de la Bible ont vécu, regardez ce que Paul vivait. Lui qui avait des problèmes de santé, hein, manifestement. Regardez ce que d'autres vivaient. Je ne sais pas, Abraham, voilà, le père de la foi. Abraham, Dieu lui fait des promesses extraordinaires, et puis à la fin de sa vie, enfin, il lui promet une terre gigantesque, une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel, et à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a? Il a un fils, et il a un champ qu'il a pu acheter au fin fond d'un terrain pour pouvoir mettre la sépulture de sa femme et la sienne. C'est tout ce qu'il a. Et c'est lui le père de la foi. Donc, si vous croyez que la foi, ça va être la santé et la prospérité matérielle. Bah, demandez à Abraham ce que c'est la foi. Ça, mes amis, c'est quelque chose qui doit être dénoncé. C'est un enseignement qui est faux. Les chrétiens souffrent et vous n'avez qu'à regarder aussi dans l'histoire de l'Église, tous les frères et sœurs qui sont morts dans la persécution, tous les responsables chrétiens qui ont souffert de la maladie parfois pendant des années. Toutes ces choses-là. Elles vont à l'encontre de l'évangile de la prospérité. Et encore une fois, l'évangile de la prospérité, c'est un évangile dangereux parce qu'il ressemble à l'évangile biblique, mais il est juste plus petit. L'évangile biblique est beaucoup plus glorieux que l'évangile de la prospérité. Et mes amis, en tant que chrétiens, on va souffrir. On va souffrir au moins autant que les autres personnes qui nous entourent, peut-être plus, parce qu'en tant que chrétien, il y a certaines catégories de souffrance qui nous visent particulièrement, mais on va souffrir comme les autres. On va pas souffrir plus que les autres. Enfin, on peut souffrir plus que les autres, mais ce que je veux dire, c'est que la souffrance n'est pas une fatalité. Parfois, voilà, le Seigneur accorde des délivrances. On a raison de prier, par exemple, pour les malades. On a raison de le faire parce que parfois, le Seigneur manifeste sa puissance et il accorde des guérisons. Et c'est vrai, on doit prier pour la guérison. On doit prier pour ceux qui sont dans la précarité, etc. Mais le Seigneur utilise aussi la souffrance pour nous faire grandir.
Alors juste une explication peut-être supplémentaire par rapport au charbon sur la tête. Un auditeur qui nous cite un bibliste orientaliste, il pense que c'est André Parot, qui cite des nomades dans le désert qui transportent un vase avec des charbons ardents sur leur tête pour dire que c'est donner chaleur et moyen de cuire les aliments. Autrement dit, une conclusion positive qui va dans la même direction que donner à manger et à boire, une bénédiction, bénissez vos ennemis. Ne
Ouais, c'est
serait-ce
intéressant.
pas une meilleure interprétation, plus en lien avec le contexte?
Honnêtement, je sais pas. Et moi, je me méfie un tout petit peu. C'est possible, hein. Et j'apprécie qu'on ait comme ça plusieurs interprétations. Moi, j'ai lu plusieurs commentaires et j'ai vu que plusieurs commentateurs ont plusieurs interprétations. Alors, quand c'est comme ça, on doit marcher un petit peu sur des œufs et faire preuve d'humilité parce que, bah voilà, on sait pas. La Bible est claire, mais et d'ailleurs, les auteurs bibliques ne le cachent pas, il y a des parties qui sont parfois plus compliquées à comprendre. Et alors, moi, je me suis dit, bon, on va regarder dans le contexte des proverbes, proverbe 25, mais le contexte des proverbes n'aide pas beaucoup parce que ben, c'est un proverbe, donc il est un peu isolé. Ces deux versets, c'est des versets 21 et 22 de proverbe 25 qui sont un peu isolés du reste. Il n'y a pas vraiment d'éléments de contexte qui nous aident à comprendre cela. Moi, j'ai lu aussi dans un commentaire de F.F. Bruce. Que j'ai ici, là, que vous pouvez regarder aussi. Lui, il fait référence à des traditions égyptiennes. Bon, peut-être qu'il y a aussi là quelque chose. Donc, je crois que quand il y a comme ça une difficulté dans le texte, il faut veiller à pas imposer quelque chose, mais plutôt se concentrer sur ce qui est clair. Et là, ce qui est absolument clair, et là, la personne qui fait ce commentaire a tout à fait raison, à mon avis, ce qui est tout à fait clair dans ce texte, c'est si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et en faisant ça, bon, il se passe quelque chose. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être modeste sur notre interprétation, mais j'ai pas lu cette interprétation-là, donc merci de la signaler. C'est possible, peut-être qu'un jour, dans 10 ans, je pourrais vous rappeler et vous dire, ah, cette fois j'ai compris parce que voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me permet de trancher. Mais à ce jour, je dois être honnête avec vous, je ne sais pas.
Merci. Et puis pour terminer, est-ce que tu pourrais juste simplement énumérer les 5 applications que tu as données à la fin de ton message?
Oui. Alors, premièrement, c'est lire ce texte en pensant à Jésus-Christ. Deuxièmement, lire ce texte, enfin relire ce texte, hein, dans un esprit d'introspection, en analysant notre propre cœur et notre propre vie. Troisièmement, c'est relire ce texte en pensant que ça découle de la foi, de notre foi, que ça découle de l'évangile, en fait. C'est parce que Dieu nous a remplis par son amour qu'on peut vivre ces choses à notre tour. Quatrièmement, relire ce texte comme un programme magnifique. C'est pas quelque chose qui est dur que Dieu nous. Enfin, c'est dur, mais c'est quelque chose qui est beau. Et c'est en fait, si on le regarde positivement, on change un peu notre rapport à ce texte. On se dit, waouh, voilà à quoi notre vie pourrait ressembler si on progresse dans les années à venir dans ce sens-là. Et puis cinquièmement, c'est relire ce texte en église, en fait. Relire ce texte non pas juste pour nous-mêmes, mais les uns avec les autres et prendre conscience qu'on veut vivre ça, pas juste individuellement, mais qu'on y arrivera beaucoup mieux si on le vit ensemble avec d'autres frères et sœurs. Voilà les 5 applications que j'ai mentionnées à la fin.
Merci beaucoup pour ce temps de questions. Et puis, je passe la parole à Antoine pour la conclusion.
Voilà, merci. Jonathan, pour avoir enseigné sur ce texte, avoir attiré notre attention sur ces 14 exhortations. Je ne veux pas faire plus de conclusions. J'avais mis par le chat aussi, est-ce qu'on peut trouver soi-même aussi une exhortation avec laquelle on serait peut-être le moins à l'aise? J'ai fait le petit exercice et puis je suis tombé sur la sixième. Bénissez et ne maudissez pas. Et bénir les gens qui sont opposés, les persécuteurs, les gens peut-être qui nous veulent un peu du mal, les gens peut-être qui réagissent à cause de nos témoignages chrétiens. Et puis, bah, ça, c'est très difficile, hein, à bénir. Moi, je ne me sens pas tellement la capacité. Mais voilà, c'est peut-être une chose sur laquelle je vais travailler. Je vous invite aussi à faire de même. Peut-être commencer par une chose, parce que le programme, vous n'allez pas pouvoir en tête travailler sur cinq choses à la fois, je pense. Voilà, je me veux réaliste et je vous propose ça. Peut-être de prier aussi avec quelqu'un. Parfois, je maudis peut-être pas, mais je vais critiquer, garder un peu d'amertume par derrière, éviter la personne. Et tout ça, c'est pas dans l'exhortation, ce sont des voies détournées pour essayer de m'en sortir dans une situation qui m'afflige. Donc voilà, je compte que sur la force de Dieu et l'accompagnement de l'Esprit. Et donc, je ferai encore une annonce. Notre prochain rendez-vous avec Jonathan Meyer, que l'on remercie encore une fois, sera le 10 novembre. Donc soyez présents. Nous aborderons le chapitre 13 et comme d'habitude, j'aime bien conseiller de regarder d'abord ce chapitre 13 avant de vous brancher, peut-être juste avant, peut-être vous avez un moment avant, peut-être vous aurez fait des heures sur votre diagnostic, mes 14 points. Tout ça, c'est bon. Et comme ça, on se prépare à la prochaine fois. Alors, une bonne fin de soirée à chacune et à chacun. Soyez bénis et aussi en bonne réflexion par rapport au contenu qui vous a été apporté. Au revoir à chacun et à chacune. Au plaisir.